voilà, chers auditeurs de Rencontre Lusophone, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Résonance 96.9 pour une nouvelle émission confinée, élaborée chez nous avec nos petites mimines. Ce soir, c'est le cinéma à l'honneur, puisque c'est moi qui vous parle. Nous parlerons du film « Au Grande Elias » avec Antonio Silva. Puis nous évoquerons la vie et la carrière d'Antonio Silva, justement. Et pour finir, une évocation des origines du cinéma portugais à nos jours. Mais tout d'abord, la petite chronique d'Hélène qui, ce soir, nous parle d'un curieux événement géologique à venir. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bora !
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
La curiosité. Il est d'ailleurs tout à fait possible que vous en ayez vous aussi entendu parler. Il s'agit de la naissance d'un océan en Afrique et plus précisément au large du Mozambique. C'est France Inter qui en a parlé mercredi dernier dans la chronique L'édito carré de Camille Crosnier, une chronique par ailleurs tellement claire et explicite que je m'en suis inspirée. Cette chronique la voici. Elle s'intitule « Naissance d'un océan en Afrique ». Le sol est en train de se déchirer sur 5000 km entre l'Éthiopie et le Mozambique. Un sixième océan pourrait bien être en train de se former. Et je vous propose donc un grand saut dans le passé. Il y a 200 millions d'années, les dinosaures n'existaient pas encore. Et l'Europe et l'Amérique du Nord ne faisaient qu'une, jusqu'à ce que la fameuse tectonique des plaques s'en mêle. La croûte continentale s'est étirée, fracturé et a ouvert la voie à celui que l'on connaît aujourd'hui comme l'océan Atlantique. Je vous parle de lui parce que les scientifiques observent avec passion depuis quelques années une sorte de fac-similé de cette naissance, mais du côté de l'Afrique de l'Est où un sixième océan pourrait bien être en train de se former. Alors ne vous emballez pas, ça ne se fait pas en 2 secondes ni même en 2 ans, mais en 5 à 10 millions d'années au bas mot. Alors autant vous dire que nous n'en verrons pas grand-chose. Mais voilà, le sol serait donc en train de se déchirer sur 5000 km entre l'Éthiopie et le Mozambique. En géologie, on appelle ça un rift, un phénomène très ancien, scruté depuis les années 1970, mais surveillé d'encore plus près depuis l'éruption du volcan Dabaou en 2005, dans la région de l'Afar, au nord de l'Éthiopie, là où se rejoignent et bougent 3 plaques tectoniques qui écartent progressivement de 7 mm par an les entrailles de cette zone désertique et brûlante. Voilà bien une éruption révélatrice de ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète à cet endroit précis. Avec du magma qui remonte, qui s'accumule et qui vient soulever en quelque sorte la croûte terrestre pour la transformer en croûte océanique. Un phénomène géologique que l'on connaît d'ailleurs comme la fameuse dorsale, tout au fond des océans. Écoutez bien, 3 semaines à peine après l'éruption du fameux volcan Dabaou, est donc apparu un gouffre, une énorme faille de 56 km de long, du jamais vu en si peu de temps. Y a-t-il déjà de l'eau dans cette fissure géante ? Pas encore, mais on sait déjà que si ça devait arriver un jour, on pense que ce serait l'eau de la mer Rouge qui viendrait la remplir. Cela dit, vu la façon dont se déplace l'Afrique vers le nord, il est peu probable qu'il soit très grand cet océan, même pas sûr d'ailleurs que le nouveau mini-continent que formerait la bande de l'Éthiopie au Mozambique se détache complètement. Et pourquoi peut-on affirmer déjà cela ? Eh bien parce que grâce aux progrès technologiques et notamment au GPS, les scientifiques peuvent analyser millimètre par millimètre les mouvements tectoniques et décrypter les secrets de la croûte océanique dont, paraît-il, la composition et la densité sont bien spécifiques. Ils ont même monté un laboratoire à ciel ouvert pour mieux comprendre la tectonique des plaques et la façon dont la Terre s'est découpée au fil du temps. Et voilà, encore une fois, notre Terre serait en train de changer. Oui, je sais. Pas toujours dans le bon sens à cause de l'impact négatif de l'homme sur son environnement. Mais là, pour une fois, il semblerait qu'on y soit pour rien. Ce qui par contre est sûr et certain, c'est que la configuration du continent africain soit en train de se modifier. Et il se pourrait même que bientôt, dans un temps très lointain bien sûr, le Mozambique se soit raccroché à l'île de Madagascar ou qu'il soit, un jour, plus proche de l'Asie ou de l'Australie que du Zimbabwe ou de l'Afrique du Sud.
L'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone. Aujourd'hui, pour changer, lol, je vous parle du film Au Grand Elias de 1950, réalisé par Arthur Duarte, la musique est de Jim Mendes. Arthur Duarte a signé certaines des meilleures comédies portugaises des années 40 en renouvelant le genre de ce film. Citons pour mémoire, en 47 au Leão de Estrela, le Lion des Étoiles, et en 43 au Costa de Castelo, un de mes films préférés, et bien sûr ce film au Grain d'Elias. Trois films parmi les plus connus et les plus aimés du public portugais. Commençons par le générique. Au Grain d'Elias est adapté d'une pièce de théâtre. Il décrit une famille portugaise en crise. Son père est accro au jeu, sa mère est séparée et sa fille danse dans un club. Cette famille qui survit grâce aux sommes d'argent considérables qu'une tante nommée Adriana envoie chaque mois du Brésil où elle vit depuis longtemps. Depuis des années, il lui ment pour pouvoir toucher de l'argent sans demander l'aumône. Le père, joué par Amarante, invente depuis des années des enfants pour stimuler la générosité de sa tante. L'argent est allé à des affaires illusoires conçues avec son comparse fantaisiste Elias, joué par Antonio Silva. La dernière était l'invention d'un sucre synthétique qui n'était pas sucré, mais qui était indiqué pour les diabétiques. Un jour, la tante, qui croit que sa famille à Lisbonne est aussi riche qu'elle, fatiguée de passer tant d'années hors du Portugal, rentre à la maison et décide de lui rendre visite. Et là, tout se complique. L'étrange foyer s'agite devant la perspective de maintenir le mensonge le plus longtemps possible. Une comédie est mise en place pour lui démontrer que son argent n'a pas été dilapidé. Le père et sa fille élaborent donc un plan avec l'aide de leur ami gaffeur, Elias. Ils la recevront dans la somptueuse demeure d'un voisin antiquaire, absent, parti vendre des meubles, et qu'ils emprunteront pour l'occasion. Ils vont inventer des frères et des sœurs pour l'occasion aussi. Car ils ont fait croire à leur tante que plusieurs enfants étaient nés afin de recevoir de l'argent, bien sûr. Tout cela pour qu'elle ne découvre pas qu'ils ne sont pas aussi riches qu'ils le disent. Anna Maria jouera son propre rôle et la tante ne doit pas savoir ce qu'elle fait réellement. Je veux parler de sa carrière dans les cabarets. Une autre sœur est tuée d'un typhus foudroyant. Miguel assumera le rôle de François, l'un des jumeaux. L'autre jumeau est décrit à la bonne tante comme mouton noir. Il a mené une vie de perdant pendant quelques années et a fini par se consacrer à la lutte sous le nom de la Panthère Noire. Qui dit jumeau dit deux rôles pour le même acteur, Ribeirinho.
Lá está ele. É aquele.
Deixa ouvir a sereia.
E agora não posso nem que queira achar maneira de não sentir teus beijos. E agora não posso nem que queira achar maneira de não sentir teus beijos.
Elias s'occupe de tout et surtout d'embrouiller la tante de plus en plus. Dans l'hôtel particulier qu'il a emprunté, il se fait passer pour un majordome. Le grand Elias donne des explications fantaisistes, organise des combinaisons rocambolesques et a toujours une idée qui complique encore plus la chose. Il en rajoute toujours. C'est ainsi que Miguel est obligé de monter sur le ring au Mayer Lisboeta Park. Le maigre physique de Ribeirinho face à la masse d'un lutteur professionnel est assez savoureux. Nous avons vu Buster Keaton, Chaplin, Harold Lloyd, José Luis Osores et Danny Kaye dans la même situation. Dans les films, il n'y a que deux sortes de ventriloques, le psychopathe dominé par sa poupée et le timide qui n'est capable de s'approcher d'une femme que grâce à son alter ego. Miguel le ventriloque est un de ces derniers. Eugène, sa poupée, réalise tout le travail de séduction auprès d'Anna Maria car il en est amoureux. Miguel, bien sûr, hein, pas sa marionnette. Le passage où Ribeirinho, ventriloque timide, tente de séduire la belle Milou par marionnette interposée a quelque chose de touchant et de mignon, genre Charlie McCarthy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un célèbre partenaire factice ventriloque d'Edgar Bergen dans les années 30.
«
servido?
Obrigado. Bom provecho.
Mais fica. Estes homens não fazem cerimónia. Vá, Chip. Pouquinho, hein? Pouquinho para não engordar. Então só te esquipa. Olha que depois eu quero ouvir a mano, hein? Onde é que estás tu? Ah! Vai, Joãozinho! Vai, Joãozinho! Olá! Então, Joãozinho! Ah. Ama de borregos! O vale é que não dizes nada a ninguém! Pronto! Agora eu! Sete. Está lá.
Il y a une allusion à l'actualité, au plan Marshall par exemple, mais elle ne ternit pas la légèreté de cette comédie. Le dysfonctionnement de la famille, les rêves de richesse immédiate, le piège et la tricherie comme moyen de subsistance. Il veut et je ne veux pas. Ils finiront par tout résoudre grâce à l'argent de la tante d'Amérique du Sud.
Pois ver-te com outra seria a morte. Tolero todo e qualquer sofrimento, mas o teu desprendimento, porque te quero. Sejas só meu, pois considero que não há mais do que um céu, e desespero, presa de fundo receio, que a força com que te quero.
C'est l'adaptation d'un vaudeville et ça se voit. On croirait regarder au théâtre ce soir. Cela dit, la pièce est plutôt bonne. Le rythme est un peu lent au début et on rit par moments. Le combat de catch notamment. Le jumeau de Miguel, avec surnom la Panthère Noire, fait piètre figure devant l'adversaire plus costaud et bien bâti. Étant bloqué par une clé de pied, le gringalet déchausse son adversaire et lui mord les orteils, ce qui le libère de cette prise. Côté musique, pas de fado, mais d'agréables mélodies très années 1940. Ce film est considéré comme l'un des derniers grands succès de la grande phase du cinéma nuovo. Il est toujours très populaire au Portugal et les rediffusions sont nombreuses.
«
Arthur Duarte a inventé la comédie portugaise, véritable arme de distraction massive, durant les longues années de dictature. Le fait est que le film n'a rien à envier aux comédies italiennes avec un des personnages principaux, quasi sosie de Roberto Benigni, et des dialogues savoureux, bien que la plupart des jeux de mots disparaissent à la traduction. Son rythme effréné, sa tendresse pour les personnages, son écriture imaginative et même sa mise en scène d'une grande efficacité en font un film charmant et positif.
Quanto mais quero ocultar que te adoro com fervor, mais se lê no meu olhar que só vivo por amor de ti.
Não precisas de dizer o que há muito descobri, pois tenho olhos para mim. E levo, já li.
Sendo assim de mim tem dó, que ser só é triste e cru.
Tu não vives nem és só, tens os patos, os perus e o cão.
Na gaiola do meu lar faltas tu, meu ai Jesus.
Uma gaiola é uma prisão, eu gosto de ar e luz.
Ninguém vive só do ar, nem da luz divino dom. Eu não é por me gabar, não sou feio e sou um bom rapaz.
És melhor do que ninguém. E bonito não serás, mas por mim sei muito bem do que és capaz.
Pois se o sabes bem tem dó, que ser só é triste e cru.
Não insistas em que és só, tens os patos, os perus e o
sempre é só quem não trocar coração por coração.
Resta-nos, pois, aniquilar a solidão e a mort.
C'était le générique de fin. Maintenant, nous allons aborder la vie et l'œuvre de Antonio Silva, justement. Donc, Antonio Silva est né dans une famille humble, l'un des nombreux fils et filles de Francisco Constantino Augusto da Silva. Il est né le 19 décembre 1849 à Lisbonne, Socorro. C'est un dureur de cadre à Lisbonne qui a épousé Amélia das Dores en 1853. La famille vivait à Rua do Jasmin au numéro 5. Antonio était employé dans une pharmacie, caissier et pompier, où il a atteint le grade de commandant avant de devenir acteur. Donc dans sa carrière, il a étudié les affaires et a participé à plusieurs groupes de scènes amateurs. Sa première apparition en tant qu'acteur remonte à 1910 dans la pièce « Le Nouveau Christ » de Tolstoï, que la société Alves da Silva a produite au Teatro da Rua dos Grandes. Un succès. Il a signé un contrat apparaissant dans d'autres petits rôles dans des pièces telles que au Conde de Monte Cristo ou au Rei Maldito. Entre 1913 et 1921, il voyage avec la compagnie Antonio de Souza à travers le Brésil, où il joue dans des films muets brésiliens tels que Convain, Martelard et Corazzo de Gaucho en 1920. Et la même année, il épouse Josefina Barco. De retour au Portugal, il travaille pendant plusieurs années à la compagnie Santanella Amarante dans des pièces de théâtre légers et des critiques. Après avoir travaillé avec plusieurs autres compagnies théâtrales, Leopold Lauer, Antonio de Macedo, Comediantes de Lisboa, Vasco Morgado, il atteint enfin les feux de la rampe du cinéma portugais lorsqu'il rejoint le casting de Cansao de Lisboa de Cotinelli Telmo en 1933. Grand, grand film. C'était dans les films que sa popularité et son ingéniosité en tant qu'acteur étaient enfin établies. Il a joué dans des rôles dramatiques et comiques dans plus de 30 films, dont Wild Cattle en 1934, As Pupillas do Senhor Reitor en 1935, au Pastio das Cantigas en 1942, au Costa de Castelo en 1943, A Mor de Perdição en 1943, Camões en 1946, au Leão de Estrela en 1947 et Fado en 1948. Sa dernière performance cinématographique remonte à 1966 dans Osario do Fraldas avec Antonio Calvario et Magdalena Iglesias. Un petit résumé de sa vie, quoi. C'était juste parce qu'on n'en parle pas beaucoup, effectivement, mais c'était un bon acteur, très bon acteur. Écoutons maintenant sa voix, là, pour nous donner une idée.
Oui, c'est vrai, ma bonne notice, si vous le banque. Mas eu posto conto. Com azeitona, não é?
É servido.
Não tem assim nada, mas já agora quero... Pois é, como lhe digo, fui ao banco. Fui ao banco e a coisa está muito bem encaminhada. A ordem já chegou. Mas como os papéis estão em desordem, eles não dão o recheio.
O dinheiro, quer o senhor dizer?
Não, o recheio do pato é que está uma coisa magnífica. Não dão ordem para entregar a ordem, percebe? Mas o dinheiro já cá está. Foram com o diretor.
Sim.
Vem em cheque. Digo-lhes então mais.
Mais?
Sim, mais um bocadinho, que está magnífico. Mas quem foi que fez este pato digno de Vatel?
Fui eu.
Ah, sim? Pois fica aprovado em patologia. Mas há mais. Eu fiz os meus cálculos astrológicos. Hoje é dia 8. O cheque chega amanhã. Vem a 9. Parece-me que não podia vir mais depressa. E agora festejemos a chegada. À saúde!
Écoutons le générique de début de O Patio das Cantigas, film dans lequel Antonio Silva joue. Nous allons aborder maintenant une partie plus intellectuelle, mais passionnante. Accrochez-vous, c'est du lourd à digérer. Voyons les origines du cinéma portugais. À Porto, en 1896, un commerçant en graines, passionné de photographie, Aurelio da Paz dos Reis, est séduit par les projections de l'animatographe de l'anglais William Paul. Il tourne avec un appareil similaire, sorti des ouvriers de la chemisée Confianza. Saída dos Operários da Fábrica Confianza en 1896. Mais il abandonne l'entreprise après un échec au Brésil. Dans les années qui suivent, une importante production documentaire se développe à Lisbonne, où Manuel Maria da Costa Veiga filme les grands événements, comme les visites du Kaiser Guillaume II ou du président français Loubet. Un photographe prestigieux, João Freire Correia, fait construire en 1904 le premier cinéma de Lisbonne, le Salão Ideal, et fonde la Portugalia Film, qui produit en 1911 le premier film de fiction portugais, inspiré des méfaits d'un célèbre brigand, Les Crimes de Diogo Alves, Os Crimes do Diogo Alves, en 1911. Malgré le succès remporté par ce film, le producteur n'en percevra pas les bénéfices. À la fois producteur, distributeur et exploitant avec sa firme Filmes Ideal, Julio Costa produit avec succès le premier film historique portugais, Inés de Castro, de Carlos Santos, mais il est ruiné par un incendie. Fondé par de très jeunes gens, la Lusitania Film permet à l'un des futurs grands cinéastes portugais, José Leitão de Barros, de débuter en 1918 avec Mal Mecker et Mal de España. Mais c'est l'Invicta Film qui développe réellement le cinéma muet portugais de 1917 à 1924. Son fondateur, Alfredo Nunes Matos, prend conseil auprès de la maison Pathé et engage le réalisateur Georges Palu, qui adapte un roman à succès, Les Gentilshommes de la Maison Mauresque, au Fidalgos da Casa Morisca en 1920, et un classique de Camillo Castelo Branco, Amour de perdition, Amour d'un perdissant en 1920. Malgré la qualité et le succès local des réalisations de Palu, l'Invicta Film ne connaît pas l'expansion internationale espérée. Après avoir débuté dans cette firme avec Femme de Beira, Mulheres da Beira en 1921, l'Italien Rino Lupo réalise, sous l'égide d'Iberia Film, Les Loups aux Lobos en 1923, le plus authentique et le plus âpre des films portugais de la période muette. La réalité portugaise est aussi au cœur de plusieurs réalisations documentaires, dont Nazaré, Plage de pêcheurs, Nazaré, Praia de Pescadores en 1928, de José Leitão de Barros, magnifié par la photographie d'Arthur Costa Macedo. Le même Leitão de Barros donne au Portugal son premier film sonore à Severa en 1931, grand succès populaire qui mêle les mythologies issues du machinisme, du fado et de la corrida. La même année, un amateur de 23 ans, Manuel de Oliveira, qu'on connaît bien, tourne avec des moyens de fortune son premier film, Douro, Faina Fluvial, documentaire poétique et lyrique sur la vie et le travail le long du fleuve Douro à Porto.
Feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Por teu amor, a minha vida era pouca pra beberes da minha boca num beijo de eterno adeus. Por teu amor, a minha vida era pouca pra beberes da minha boca num beijo de eterno adeus. Thank you. esperança que vive na minha alma soluçar. Oh, meu amor, sonho lindo este que eu tive, única esperança que vive na minha alma soluçar. Por teu amor eu morria de desejo, deste minha vida no majo e eu vivi para te beijar. Por teu amor eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi para te beijar.
Le régime du dictateur Salazar éloigne le cinéma portugais parlant des sujets sociaux et politiques, à l'exception de la chanson de la Terre à Canção da Terra en 1938 de Jorge Brum do Canto, qui traite à la fois du combat contre les caprices de la nature et des rapports de classe. Mais la propagande en faveur de l'Estado Novo reste limitée à quelques films, comme La Révolution de Mai, à Revolução de Maio en 1937 d'Antonio López Ribeiro. Dans le même temps, la création de la Tobis Portuguesa donne une assise plus industrielle à la production. La chanson de Lisbonne, A Canção de Lisboa en 1934, de Cotidelli Telmo, remporte un grand succès et constitue le modèle de la comédie cinématographique portugaise dont les ingrédients de base sont un milieu urbain populaire et chaleureux, beaucoup de musique et de chansons et un personnage central hâbleur. On les retrouve diversement dosés dans Maria Coquelicot, Maria Popoala en 1937, de Leitão de Barros, ou Le village du linge blanc, Aldeia da Roupa Branca en 1938, de Chanca de Garcia. Certains réalisateurs préfèrent exploiter une veine plus rurale, comme Antonio López Ribeiro avec Bétail sauvage, Gado Bravo en 1934, Jorge Brum do Canto avec João Ratão en 1940, ou Henriques Campos avec Un homme du Ribatejo, Homem do Ribatejo en 1946. Le film historique est également au goût du jour dans les années 40. José Leitão de Barros réalise une nouvelle Inés de Castro en 1945 et une biographie de l'illustre poète portugais Camões en 1946, et Antonio López Ribeiro donne une seconde adaptation d'Amour de perdition en 1943. En 1942, deux films se distinguent nettement de la production courante et font connaître le cinéma portugais hors des frontières du Portugal. Sur un thème répandu, une histoire d'amour marquée par une différence de caste, Leitão de Barros décrit la vie d'une communauté de pêcheurs dans Alá Arriba, tandis que Manuel de Oliveira, dans Aniki Bobo, peint avec un regard poétique et néo-réaliste avant la lettre l'univers des enfants pauvres de Porto. Dans les années 50, l'influence du néo-réalisme italien se fait sentir dans les films de Manuel Guimarães, Saltimbanco, 151, ou Vie sans but, Vidas sem rumo, en 56. Et dans Il est facile de rêver, Sonhar é fácil, en 51, de Perdigão Queiroga. Simultanément, le cinéma portugais se politise et se retrouve au centre d'un important mouvement culturel très critique à l'égard du cinéma national qui se cantonne aux comédies traditionnelles comme Le Grand Elias, Au Grand Elias 150 d'Arthur Duarte et aux films littéraires et historiques comme Chalmite 53 de Jorge Brum do Canto qui relate un épisode de l'occupation du Mozambique.
Que eu revi a minha história, a memória é uma armadilha. Quanto mais solta, mais se ensarilha. E na roda do destino nunca se sabe o que se nos depara. E os que ainda andam na moto de cima têm que saber que a roda não para. E fatalmente o fim se aproxima, a vida não para. E enquanto que o mistério se deslinda, no cinema abandonado, olho para o lado. tarde e busco em vão um outro alguém que me estenda a mão. E a roda deste fado só não até me caia em cara. Eis que ainda andam na moto de cima. Tenho que saber que a roda não para e fatalmente o fim se aproxima. A vida não para. Grito lancinante das sirenes na cidade adormecida. Vem da vida ou vem do ecrã? Ouvi-os hoje ou são para amanhã? E na roda desta vida nunca se sabe o que se nos depara. Os que ainda andam na moto de cima têm que saber que a roda não para. E fatalmente o fim se aproxima, a vida não para. E saio do cinema cambaleante, corro a buscar a amizade numa cidade que vi na tela, num cenário em qualquer janela. E a roda deste fado só não até me caia em cara. E os que ainda andam na moto de cima têm que saber que a roda não para. E fatalmente o fim se aproxima, a vida não para. Foi num velho cinema de reprise que eu revi a minha história.
Une forme de nouvelle vague apparaît dans la décennie suivante avec un film financé par la coopérative du Spectateur, Don Roberto en 62, de J. Ernesto de Souza, démontrant qu'il est possible pour une nouvelle génération de réalisateurs d'accéder à des réseaux de production alternatifs. Les Îles Enchantées, Asilias Encantadas en 65, de Carlos Villar Debo, Dimanche après-midi, Domingo attardé en 65 d'Antonio de Macedo, Le message au Recado en 71 de José Fonseca et Costa évoque la nouvelle vague française et les films d'Antonioni. Parallèlement, Les vertes années, Os verdes anos en 63 et Changer de vie, Mudar de vida en 66 de Paolo Rocha, comme Pedro le solitaire, Pedro Sou, 70, d'Alfredo Troppa, prolonge plutôt la tendance réaliste. Antonio da Cunha-Teles, producteur de Rocha, Villardebo et Macedo, réalise lui-même au Cerco, en 70, portrait désenchanté d'une jeune femme et tableau pessimiste de la bourgeoisie du régime finissant. Bellarmino, en 64, de Fernando Lopes, est une expérience de cinéma direct à la manière de Jean Rouch sur un ancien champion de boxe. Avec Le mystère du printemps, Wacto da Primavera en 62, Manuel de Oliveira déroute en abordant de façon inédite le thème de la religion, omniprésent dans le cinéma portugais, de Fatima, terre de foi, Fatima, terra de fé en 41, de Jorge Brum de Canto, au héron et le serpent, A Garça e a Serpente, en 52, d'Arthur Duarte. La promesse, A Promessa, en 72, d'Antonio de Macedo. Le mal-aimé, O mal amado, en 72, de Fernando Matos Silva. Sophie et l'éducation sexuelle, Sofia e a educação sexual, 73. Et La douceur de nos mœurs, Brandos Costumes, 74, s'attaque au pouvoir ecclésiastique, à l'institution familiale, au tabou de la sexualité et à la figure paternelle. La chasse, à Saka, en 63, et Le passé et le présent, au passado et au présente, en 71, confirme le talent et l'évolution de Manuel de Oliveira vers un cinéma en rupture avec les formes d'expression classiques, où le rejoint Fernando Lopes avec Une abeille sous la pluie. Abelia na chuva en 71.
Disseram-me um dia, Rita, põe-te em guarda, a aviso-te, a vida é dura, põe-te em guarda, cerra os dois punhos e andou, põe-te em guarda. Eu disse adeus à desdita e lancei mãos à aventura, ainda aqui está quem falou. Galguei caminhos de ferro, põe-te em guarda, palmilhei ruas à fome, põe-te em guarda, dormi em bancos à chuva, põe-te em guarda. E a solidão não erro, se ao chamá-la o seu nome vai que nem uma luva. Andei com homens de faca, põe-te em guarda, vivi com homens safados, põe-te em guarda, morei com homens de briga, põe-te em guarda. Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados, o coveiro que o diga. Coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu para nada. O coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu para nada. E um dia de tanto andar, põe-te em guarda, eu vi-me exausta e a zangue, põe-te em guarda, entre um berço e um caixão, põe-te em guarda, mas quem tratou de me amar soube estancar o meu sangue, soube erguer-me do chão. Veio a fama e veio a glória, põe-te em guarda, passearam-me de ombro em ombro, põe-te em guarda, encheram-me de flores o quarto, põe-te em guarda. Mas é sempre a mesma história, depois do primeiro assombro logo o corpo fica farto. Andei com homens de faca, põe-te em guarda, vivi com homens safados, põe-te em guarda, morei com homens de briga, põe-te em guarda. Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados, o coveiro que o diga. O coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu para nada. O coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu para nada. E o coração que o conte, quantas vezes já bateu para nada.
La révolution des œillets du 25 avril 1974 voit naître de nombreuses coopératives et unités de production. On réalise des films d'intervention politique, souvent documentaires, comme Les armes et le peuple, à Armache et au Povo en 1974, film collectif avec la collaboration du Brésilien Glauber Rocha, historique et didactique, analysant l'idéologie du régime de Salazar, comme Dieu, patrie, autorité, Deus, Patria, Autoridad, de 75, de Ruy Simoninch. On tourne aussi des films de fiction à caractère politique, comme Les funérailles du patron, Aux funérailles du patron, en 75, d'Eduardo Geada, ou Les démons d'Alcácer Quibir, Aux démonios de Alcácer Quibir, en 75, de José Fonseca Acosta. Très remarqué et très controversé, le documentaire fiction Trace Schmonch, en 1976, d'Antonio Reich et Margarida Martins Cordeiro, du nom d'une province du Nord-Est, explore l'identité portugaise entre histoire et tradition. Sans que s'interrompe le courant politique, les années 70 et 80 voient se développer un cinéma de fiction plus proche de la tradition, avec des films comme Quilas, le méchant du film, Quilas au Mao da Fita, en 80, de José Fonseca e Costa, tandis que Reich et Cordeiro poursuivent la voie d'un cinéma expérimental et philosophique avec Anna en 81 et Désert Rose, Rosa de Araya en 88. La personnalité originale, étrange et humoristique de João César Monteiro s'affirme dans Souvenir de la Maison Jaune, Recadascence da Casa Amarilla en 89, La Comédie de Dieu, un comédia de Deus en 95, Lion d'argent au Festival de Venise, Le bassin de JW, Abbacia de John Wayne en 97 et Les noces de Dieu en 99. Avec Monteiro, deux autres grandes figures dominent aujourd'hui le paysage du cinéma portugais. celle de Manuel de Oliveira, qui donne sa pleine mesure depuis Amour de perdition, en 78, jusqu'au couvent, au Covento, en 95. Et celle de Paolo Rocha, fasciné par l'Extrême-Orient, qui évoque la vie et l'époque de l'écrivain Venceslao de Moraes dans l'île des Amours, à Ilha dos Amores, en 82, et l'île de Moraes, à Ilha de Moraes, en 84, avant d'adapter un classique japonais en 86, dans les montagnes de la Lune, au Desejado. Son immense talent est confirmé avec ce retour à l'inspiration portugaise dans Fleuve d'Or, au Rio de Oro, en 98. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop assommé avec tous ces chiffres et tous ces titres, mais c'était juste pour vous montrer un peu la progression du cinéma portugais au fil des années. Voilà.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Chers auditeurs, notre émission se termine, mais on revient la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Eh oui, rencontres lusophones, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous ici même demain dimanche à 20h30 pour une rediffusion de cette émission. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Résonance Bourges et sur notre page Facebook Rencontres lusophones au pluriel. Merci de nous être fidèles. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, observez bien la distanciation et sortez couvert. Hâte et maïche!
Aproximar. Só ponho creme nas manchas de...